Vous êtes bien sur Radio Alpitsis et c'est l'heure de lever le voile et de découvrir. Voici donc l'émission Découverte, émission ouverte aux propositions des bénévoles de la radio pour vous faire découvrir, à vous auditeurs, un personnage local, une initiative motivée, une association dans son quotidien et ses problématiques ou tout simplement faire partager un bout de vie. Bon escoute sur Radio Alpitsis.
Et bonsoir, bienvenue à l'antenne Radio Albigès pour votre émission spéciale Il était une fois le rugby à 13 avec monsieur Aimé Mouret, grand spécialiste tarné du rugby à 13 qui a entre autres écrit un livre sur le rugby à 13, le Wouz du rugby à 13. Aimé, bonsoir.
Bon plat.
Aimé, nous allons parler du rugby à 13 aujourd'hui. On va commencer chronologiquement par les débuts et la naissance du rugby à 13. Pouvez-vous nous en dire quelques mots, comment s'est fait cette genèse du rugby à 13 ? On le sait, dans la banlieue anglaise londonienne de Huddersfield. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ?
Bon, pour ça, il faut remonter 150 ans en arrière. Mm-hmm. Le rugby est né en 1823 grâce à Webb Ellis, qu'on dit. Mm-hmm. Peut-être c'était juste une rémanation de la Soule importée par 1066, on ne sait pas l'histoire, là. Alors, on a joué au rugby, mais de façon un peu empirique, jusqu'en 1870. Et c'est en 1877... Je crois qu'on est passé à 17 joueurs. Et peu de temps après, on est passé à 15 joueurs. Mm-hmm. Mais le rugby est un sport purement amateur, pratiqué par l'élite. Il ne fallait pas toucher un sou, comme pour les Jeux Olympiques en 1896, quand ils sont nés. Mm-hmm. Tout olympicien, on va dire ainsi, il devait être un amateur pur et dur, puisqu'il faut rentrer dans l'histoire. C'est un athlète qui touchait des sous, était radié. Et là, on va aller dans l'athlétisme, un certain Jules Ladoumègue, qui en 1936 a été radié, parce qu'il avait soi-disant touché quelques sous. Il a devenu un homme de cirque pour courir à côté de cheval, pour gagner sa vie. C'était le tennis, lui, était un toléré un peu professionnel, mais c'était un peu spécial. Mais la plupart des sports, c'était l'amateurisme pur et dur, et en quelque sorte réservé à l'élite. Alors, le rugby se développant dans le nord de l'Angleterre, surtout. Les mineurs du nord de l'Angleterre et les employés des usines, des zones industrielles de Leeds, de Manchester, de Hull
avaient besoin de compléments de salaire quand...
On demandait un complément de salaire, ils appelaient ça le manque à gagner, pour pouvoir s'entraîner et aller jouer. Ça se passait au début des années 1895, mais là aussi il y a eu une révolution dont on ne parle jamais. Le football aussi a connu le même problème. Parce que le football, jusqu'à cette époque-là, se jouait à 13. Mmh. Et il est passé à 11. Et les grands patrons des grandes firmes automobiles, Peugeot, les Agnelli en Italie, Volkswagen, je ne sais rien, ont permis de tolérer le professionnalisme, mais sous une forme d'esclavage. Parce qu'il faut savoir que quand on signait une licence pro de football, jusqu'à ces années-là, on était propriétaire du club de la fédération concernée jusqu'à 35 ans. Ça s'est passé en France. Mmh. Et si ça a été aboli, le droit à trois Français, Jules Fontaine, qu'on ne présentera pas,
oui.
Raymond Coppa, qu'on ne va pas présenter, et Michel Hidalgo, qu'on présentera encore moins, qui se sont battus pour abolir cet esclavage. Les joueurs de foot c'était des esclaves même. Esclavage doré peut-être, mais esclavage quand même. On ne remettra jamais assez ce grand monsieur qui a été Raymond Coppa, qui, dans tous les sens du terme, a été un exemple.
Qui nous a quittés il y a très peu.
Très peu. Dont son frère, un peu de gens le savent, j'avais connu son frère, a été un des pilotes émérites des Polonais dans la guerre de 1939, et peut-être nous a permis à Winston Churchill, parce que c'était un de ses conseillers, à ce que l'Angleterre ne soit pas envahie. Mmh. Tout se tient, le sport.
Bien sûr.
Bon, nous allons revenir dans les années...
1895, avec le rugby à 13.
Les joueurs, déjà, on sentait qu'il y avait ce remue-ménage. Et ils se sont réunis à Huddersfield, une cité industrielle anglaise qui existe encore, très industrieuse, et ils ont créé ce qu'on appelle une ligue. Il y a 20 clubs qui ont signé, ils ont fait scission avec la Rugby Union. Parce que le rugby à 15, c'est le football Rugby Union.
Exactement.
Et le rugby à 13, c'est football Rugby League. Et le football pur, c'est football association.
Exactement.
C'est l'association, comme on disait. À l'époque, l'association, c'était le rugby des patronages et des curés. C'est comme ça. Mmh. C'est histoire de remettre tout dans le cadre.
Dans le contexte.
Voilà.
Et donc, le rugby à 13 était le sport prolétaire populaire en Angleterre.
Donc, ils ont créé ce sport. Ils ont joué à 15 jusqu'en 1906. Et là, ils ont dit qu'il faut quand même donner du sens au jeu. Et on va. Pour ça, la meilleure façon d'avoir des espaces, c'est qu'ils ont supprimé ce qu'on appelle les deux troisièmes lignes. Mm-hmm. Il y a eu 13 joueurs, 6 avant, 2 demi, 4 trois quarts et un arrière. Mm-hmm. Et à partir de là, ils ont créé ce qu'on appelle le rugby à 13. Mais à même époque, il faut le savoir, l'histoire, on ne la raconte pas assez. Chez les Unions, on sentait aussi qu'il y avait deux joueurs de trop. Alors, ça s'est passé au mois de mars chez la Ligue, les Ligueurs. Mais au novembre 1906, à l'époque d'Alain Fournier, on en reviendra aussi parce qu'il faut y revenir, les Unions voulaient passer à 13 joueurs. Mais comme les autres, la Ligue l'avait fait, ils ne pouvaient pas. Donc on peut dire ça, le rugby à 13, il n'y aurait plus de rugby à 15.
Exactement.
C'est la formule exacte.
En sachant qu'il y a eu une période à partir de 1906 jusqu'à 1940 où le rugby à 13 a commencé à devenir plus prépondérant et a même commencé à grappiller de plus en plus de licenciés au rugby à 15.
Oui, là, au Pays de Galles, dans le nord de l'Angleterre, et surtout il s'est importé en Australie et en Nouvelle-Zélande. Le 13 était populaire, contrairement à ce qu'on nous dit. Et ce jeu a plu, je ne veux pas dire, aux aborigènes australiens, qui, quand on les voit jouer aujourd'hui, c'est des... on ne comprend pas comment ils sont si habiles. Et il s'est développé en Australie, où il est devenu... où ils ont fait déjà, comme on dit, du business. Déjà, en 1900, les stragistes australiens, en 1910, avaient fait du business. Et ils ont importé ce business en Europe, parce qu'il y a beaucoup d'internationaux de 13 australiens et néo-zélandais qui sont venus à la Grande Guerre en 14-16. Et eux, ils ont importé cet esprit-là, ces 13istes australiens, qui sont morts au champ d'honneur sur la Somme, l'Aisne et tous les pays du Nord, là, de la France.
Toutes les grandes batailles de 14-18.
14-18, dont un certain Messenger. C'est lui qui est un héros australien, grand pilote de l'armée australienne et de sa majesté, le Commonwealth.
D'accord. Donc, ces 13istes commencent à prendre un certain essor, arrive la Première Guerre mondiale, puis arrivent les années 20 et les années 30, où là, ils commencent à être un peu gênants, et on peut s'apercevoir que le rugby à 15 commençait à trouver les cousins 13istes de plus en plus envahissants.
Oui, là, il faut revenir, puisqu'on va revenir à la Grande Guerre. La France est admise au tournoi en 1906. On ne saura jamais si Péguy, Charles Péguy et Alain Fournier ont été internationaux de rugby à 15, il n'y avait pas le 13 à l'époque.
Oui.
Mais c'était des passionnés, avec Péguy, Monterland, Giono, de rugby, ces gens-là. Mais le rugby, pas celui de la province, pas celui de la troisième mi-temps, comme nous on faisait. Le rugby avait, comment dirais-je, avec panache. Les mœurs d'ici ne plaisaient pas tellement à Alain Fournier, qui avait été lieutenant, avait fait son régiment à Mirande, il avait écrit des choses qui ne lui plaisaient pas trop. Et la brutalité exista dans le rugby. En 1913, l'Écosse n'a pas voulu jouer le tournoi des nations contre la France, il faut l'oublier. Et déjà, ils envisageaient d'importer le 13 en 1914. Ça ne s'est pas fait, on connaît l'histoire, la Grande Guerre est arrivée.
Il est passé par là et tout était reporté. Et
puis est arrivé l'armistice en 1919. Le rugby, parce qu'il n'y avait que le rugby union en France, continue son cours, mais la brutalité était partout. Et arrivé, il était devenu vrai professionnel. La grande équipe de l'époque, c'était Quillan avec le Formica, les Chapeaux Népia, Bourrel, c'était une fortune, la Vallée de l'Aude. Cette Aude Vallée de l'Aude, quand on parle de désindustrialisation, il y avait 10 000 ouvriers, aujourd'hui il y en a zéro. Et tous travaillaient à Formica, mais c'était des amateurs, c'était des faux professionnels, mais des vrais, en réalité. Et il y avait des violences terribles. Il y a eu une finale Quillan-Lézignan qui a été terrible, et surtout celle de Agen-Quillan où il y a eu un garçon qui est mort sur le terrain. Il s'appelait Mourut, ça ne s'invente pas en demi-de-mêlée. Mourut est mort sur le terrain. Voilà l'histoire. Est-ce que les journaux l'ont écrit ainsi? J'en sais rien. Ça remonte à 1920.
En sachant une petite anecdote, aussi dans le club de Carmont, il y avait eu une histoire où un joueur avait été blessé parce que le rugby était devenu trop brutal. Il avait porté plainte contre le joueur qui l'avait blessé avec une histoire de morsure. Je vous passerai l'endroit où il a été mordu. Et au plus grand désarroi du joueur, c'est lui qui a été condamné et radié à vie du rugby. Donc à l'époque, les gens qui dénonçaient cette brutalité étaient un peu aussi mis au banc, on va dire.
Et oui, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu Coluche à l'époque, parce qu'il l'aurait dénoncé aujourd'hui.
Oui.
Vu les lieux qu'on ne va pas citer ici, comme disait Brassens. Comme il disait, lui, c'est sa mère que lui avait interdit le gorille de le dire.
Donc, pour revenir au 13, la naissance du 13 en France, c'est après la Première Guerre mondiale.
Mais dans les années 24-25, le journal Lotto, il y avait beaucoup de journalistes qui s'intéressaient.
L'ancêtre de l'équipe.
L'équipe, et ils voulaient implanter le 13 en France. Alors, en 1931, il y a eu une scission. Les Anglais n'ont plus voulu les Français dans le tournoi des 5 nations.
D'accord.
Donc, il a fallu se reconvertir et créer la FRIRA, une fédération amateur, que peu de gens le savent, qui a été créée par un certain tonton Adolf Hitler, ça on ne le dit pas, parce que Hitler, il voulait faire du rugby à 15, le sport mondial, mais Hitler, il ne se cachait pas, enfin, c'était plutôt ses acolytes, là. Il disait, c'est un sport qui permet toutes les règles, donc toutes les conneries qu'on peut faire, c'est toujours légal. Goebbels, Goebbels qui disait ça, le fameux Goebbels.
Le ministre de propagande.
On appelle ça un grand sentimental, mais on se comprend. Hein.
Oui, oui.
Et le rugby est interdit. Alors, on parle du rugby, alors, on fait un match de démonstration à Pershing, à Paris, devant plus de 20 000 personnes, en décembre 33, je me semble, la date. Et tout le monde est enthousiasmé. Jean Galliard, qui avait été radié au motif qu'il jouait à Villeneuve, il était de Quillan, il était allé jouer à Villeneuve-sur-Trèze, sur un télégramme intercepté, déjà les services secrets existaient, fabriqués ou pas, comme toujours les preuves, on les fabrique quand on les a pas,
exactement.
A été radié à vie de la Fédération de rugby à 15, de la Fédération. Et il part en Angleterre, il réunit les pionniers, une vingtaine, ou 26, 22, je ne sais pas. Il y avait deux Chavannes, est-ce que c'est un parent de l'ancien animateur de radio, je n'en sais rien.
Possible.
Il y avait Charles Petit, qui a été très connu, qui avait créé une équipe après de 13 à Nancy.
D'accord.
Et ils ont fait une tournée, en peu de temps, ils se sont bien adaptés à...
Au règne du 13.
Au règne du 13. Ils sont revenus, ils ont créé la Ligue, ils ont créé un championnat, des clubs de partout sont arrivés. Et on a créé des matchs internationaux. Quand ce pays de Galles, la France rejouait de nouveau, grâce au 13, le concert des grands. Et en 1939, peu de gens le savent, la France a été championne d'Europe de rugby à 13 en battant le pays de Galles, grâce à Mas Rousier qui avait réussi un coup franc du bord de la touche des 59 mètres en arrière, ça faisait plus de 70 mètres. Et à l'époque, les ballons ne pesaient pas 400 grammes, ils en faisaient plutôt 800.
Un véritable exploit.
Un véritable exploit qui est resté dans les annales encore. Dans le Guinness Book, il est toujours.
D'accord. Ça, c'est une information que nos auditeurs seront friands d'entendre, qu'ils pourront aller vérifier chez eux, dans leur Guinness Book.
Le Guinness Book.
Donc, on arrive quasiment à la Seconde Guerre mondiale. Le rugby à 13 en France se développe. Il est quasi pro. On peut appeler ça comme ça. Et arrive l'armistice.
Oui.
Alors là, c'est le grand malheur du rugby à 13. C'est à cette période-là que le rugby à 13 s'est fait déposséder, on va dire, un peu de tout. Sur le sujet, on a réussi à récupérer une interview de Robert Fassolette, l'éminent spécialiste du rugby à 13. On va l'écouter, mais et après vous nous en direz un peu plus.
On en remettra un peu plus.
Alors Jean-Hébert Négaray est ministre de la Famille et des Sports du tout premier gouvernement de Vichy. Les gens du rugby à 15, les basses, demandent à Ibar Négaray de faire quelque chose pour essayer de redorer le blason du rugby à 15. Parce que le 13 est sur la pente vraiment montante, ascendante. En plus, l'équipe de France a des résultats brillants. C'est la première équipe à être championne d'Europe, à battre les Anglais, les Gallois, etc. Et en 1939, quand le 13 a fait sa percée, il ne reste plus que 471 clubs de rugby à 15. Donc ils sont sur la pente descendante et il semble qu'ils vont perdre le combat, enfin, de notoriété vis-à-vis du public en matière de rugby. Donc il déclare le 22 août 40, que le sort du rugby à 13 est clair, rayé purement et simplement de la carte. Donc on va prendre la décision de détruire un sport florissant uniquement pour permettre au rugby à 15 de ne pas continuer sa décrépitude. Voilà. Le rugby à 13 est interdit de jeu, c'est-à-dire que plus personne ne peut jouer au rugby à 13 en France, à partir du mois d'octobre 40, à titre officiel. Et autre conséquence, un petit peu plus tard, viendra un décret qui lui interdira la possibilité institutionnelle pour le rugby à 13 de réexister éventuellement, puisqu'on interdit à la fédération d'exister. C'est-à-dire qu'il y a la pratique qui est interdite, mais dans un deuxième temps, pour bien être sûr que ça ne reprenne pas un jour, on interdit l'institution rugby à 13 d'exister. Donc on saisit les biens, les archives, les finances, enfin tout, les stades qui étaient en propriété, enfin les maillots, tout, il y a des photos, on voit des clubs de 15 en 42, 43 qui jouent avec du matériel de rugby à 13. On dit souvent que d'autres sports ont été interdits sous Vichy. Donc le jour où il est promulgué l'interdiction du rugby à 13, on dit que le tennis et la lutte avec le 13 sont interdits aussi au sens professionnel. Sauf que la lutte, on interdit le catch, qui était des lutteurs amateurs qui faisaient du catch pour gagner un peu d'argent. Et le tennis, ce qui est interdit, c'est les démonstrations payantes de tennis par les amateurs qui faisaient ça pour gagner aussi un peu de sous. Par contre, au rugby à 13, toutes les pratiques sont interdites. C'est la pratique elle-même qui est interdite. Puisque faire du rugby à 13, même si vous étiez minime, c'était considéré être professionnel. Le seul sport qui a été éradiqué sous Vichy, c'est le rugby à 13, il n'y a pas d'autre. Ça, c'est intangible, les archives sont claires. Le hasard veut que les 5 sports qui sont au programme des professeurs d'éducation physique, au sens des sports d'équipe, foot, hand, basket, rugby 15, volley, ont été mis au programme des profs de gym le 1er juin 1941, donc sous Vichy. Et actuellement, c'est toujours pareil. Le poids de la pédagogie sera toujours porté par le fait que le renouvellement des cadres n'est pas assuré par l'école. Et quand on dit renouvellement des cadres, c'est pas que les joueurs, c'est les futurs dirigeants, les arbitres, les spectateurs, les journalistes, les hommes politiques qui sont des soutiens à ces pratiques-là. Cette absence du 13 à l'école, pour moi, c'est la plus grande victoire historique du rugby à 15 sur le 13. C'est qui nous a empêchés d'être sur le terreau sur lequel pousse l'avenir de n'importe quel sport, l'école.
Donc, Aimé, on vient d'écouter Robert Fassolette. Donc, après cette petite intervention audio de Robert Fassolette, que pensez-vous maintenant de cette intervention et en même temps, qu'est-ce que s'est-il passé en 1940?
Mais il faut revenir déjà dans les années 38, le 13 est très populaire. Il y en a qui commencent à ruminer à 15 la revanche, sentant que les Allemands vont arriver, et que, comme dit par Robert Sassolette, et il y a l'acte de mobilisation, et les épreuves de compétition n'ont pas lieu en 40 pour les raisons de guerre. Mm-hmm. Et à ce moment-là, il faut revenir, la fédération était présidée par François Cardoré, oui, qui était un député du Finistère, et je crois qu'il était un ostriculteur de métier. Okay. Le premier président de 13, c'est un Breton, il ne faut pas l'oublier. C'est quelque chose de le dire, Robert. Et il y avait des gens, à l'époque, des grands joueurs de rugby. Il y avait, comment il s'appelle, Jean Daugé, qui était le prince de l'attaque, le roi des seigneurs.
Qui a donné son nom au stade de Bayonne.
Oui. Il y avait aussi Robert Besse, qu'on ne parle pas souvent, qui jouait. Robert Besse, qui était de l'ordre, qui était un demi de mêlée, certainement des magiciens les plus fabuleux qu'on ait jamais connus. Et il y avait Masrousier, il y en avait de Chavannes, il y avait les Catalans, toute cette. Les Fabres, les prénoms ne servent pas, il y en avait tellement de Fabres qui jouaient au rugby et qui jouent encore d'ailleurs. Et ça a pris une extension, comment dirais-je, terrible. Et il fallait éteindre. Et alors, à ce moment-là, la meilleure façon qu'on a trouvée, il y a Laborde qui a joué le double jeu. On ne sait pas si Marcel Laborde, qui était un avocat de métier, il avait une formule, un vol de lapin, 30 ans de prison, tu tues un type, t'as les gros yeux, c'est un avocat fabuleux, un peu, un maître Vergès de l'époque, on va dire.
D'accord.
Pour comprendre Laborde, il faut comprendre. Et qui parle d'un, c'est grâce à lui qu'après la guerre, le 13 est revenu. Parce qu'il il est devenu quand même le vice-président de la Fédération française de rugby, puisqu'il y a plus de 15. Et là, pourquoi le rugby à 13 est interdit? Mais là, il faut rentrer dans la Constitution française. Pour comprendre ça, il faut. La Constitution française dit la République est une et inéligible, donc il ne peut y avoir qu'un rugby. C'est la Constitution, il s'appuie là-dessus, hein, c'est tout. Qui a été à voter en septembre, le 26 ou le 28, 1958, par 20% de oui. Oui, pour la petite pourcentage, il y avait 92% de votants. On était, à l'époque, on votait quand même.
Et oui, c'était pas. La citoyenneté était un peu plus à la mode, on va dire.
Un peu plus à la mode, oui, il faut on peut l'ajouter.
Mais un peu allègrement l'ajouter.
Complètement. Et alors, tous les joueurs de 15, tous les clubs, parce qu'on jouait à l'époque à 15, à 13, à Narbonne, à Béziers, à Brive, donc un dirigeant s'appelait Edmond Michelet, le grand Edmond Michelet, est un supporter de 13, puis j'en le savais aussi.
Il y avait des balles entre le 15 et le 13.
Il y avait aussi Claude, puisqu'on est à Michelet, jusqu'au bout de l'histoire, il y avait son fils Claude Michelet, là, l'Aigrelou, à lire ce livre, même si ça n'a rien à voir avec lui, ça nous replonge dans notre histoire, dans nos profondes, dans nos racines les plus profondes. Mm-hmm. Et ces joueurs sont allés, il y avait de grands juniors qui jouaient à 13, qui sont passés à 15, dont un certain Yves Bergognan, le requin qu'on appelait. Je pense que ça a été le plus grand joueur de demi de mêlée de tous les temps. On n'a pas mieux fait depuis. Après la guerre, il a été international à 15, mais il a arrêté à 25 ans sa carrière. On l'appelait le requin.
Alors, en parlant de cette période de la guerre, malheureuse, de l'occupation, il y a, on va revenir un peu sur le côté un peu plus local, avec Albi, qui a été, comme tout club de moins de 25 000 habitants, obligé de fusionner. Le Sporting Club Albigeois avait été, pendant l'occupation sous Vichy, obligé de fusionner avec le club de 13 d'Albi, le RC 13 Albi, pour faire le Albi Olympique, sous l'impulsion de Joe Maraval, alias Mr. Brown, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire du Sporting. Et donc, dans cette période, quand même, pour Albi, localement, ça a quand même été une période face, puisqu'ils ont gagné ce qu'on appelait le Challenge français, qui était l'équivalent d'un ersatz de top 14 entre équipes de la zone dite libre.
Libre.
Parce qu'il n'y avait pas grand-chose qui était quand même bien libre. Mais bon, donc, localement, Aimé, pouvez-vous nous dire un peu comment s'est passée cette aventure du Albi éphémère, mais Albi olympique, qui a gagné deux challenges français, dont un à égalité, je crois, avec le Stade toulousain, si ma mémoire est bonne.
Le Stade toulousain, oui, c'était la fusion a été faite par Joe Maraval. Puisqu'on parle de Joe Maraval, il faut parler du personnage, tout ce qu'il représente. Ce n'est pas que le rugby, Joe Maraval. C'était un ami personnel de Léon Pompidou, le père de Georges, n'oublions pas. Le père Pompidou...
était prof à Rascol.
Oui, qui était professeur à Rascol. Fondateur, créateur avec Joe Maraval du dictionnaire franco-espagnol. Le rugby mène à tout si on s'en sortirait, on peut en prendre beaucoup de choses. Et Joe Maraval a fait cette fusion. On va dire, vu l'état d'esprit, ça a dû se faire... sans animosité, je pense même.
Et puis c'était un entraîneur, soi-disant, parce que je suis bien trop jeune pour avoir connu cette époque-là, mais qui avait des techniques qui étaient révolutionnaires, et qui actuellement ne dépareillerait pas avec les techniques du rugby pro. Il paraît qu'il avait des techniques d'entraînement qui bousculaient tout, et qui étaient vraiment révolutionnaires pour l'époque. C'était un précurseur, on va dire.
Oui, comme un certain Joe Amida, dans l'ordre en Lézignan, c'était les mêmes méthodes. On faisait le grimper à la corde, on faisait le saut en longueur, on faisait les 400 mètres, et enfin, tout ce qui relevait de l'athlétisme, mm-hmm. pour jouer au rugby. C'était révolutionnaire.
C'est un travail sur la vélocité, on va dire.
Oui, et l'adresse.
Et ce travail a porté, puisque à cette époque, où malheureusement le 13 ne peut exister, a été, on va dire, l'époque où le rugby en albigeois a été le plus haut.
Puisque il a été au sommet.
C'était eux les champions de France du challenge français qui regroupaient toutes les équipes du sud.
De la Loire.
Exactement, de sous la Loire, de sous la ligne de démarcation. Donc, à Albi, on le voit, ça s'est bien passé. Par contre, dans d'autres villes, ça s'est très mal passé, puisque quand même, il faut le dire, le 13 a eu ses biens qui ont été saisis. Les maillots ont été volés, dans certains coups, où les équipes de 15, se disant, mais t'as un jeu de maillots à changer, on va récupérer ceux d'équipe de 13, puisque comme ça, on n'aura pas à en racheter. Donc, on peut dire que le rugby à 13 a été complètement pillé, spolié à cette époque-là. Est-ce que, Aimé, vous pouvez nous développer un peu, nous en dire un peu plus?
Eh bien, le rugby à 13 a été, tous les biens ont été spoliés, les minimes à Toulouse, à Bourbaki, à Pau, à Bordeaux, à Lyon, à Béziers, à Narbonne, à Perpignan, à Lézignan, à Carcassonne. Aujourd'hui, ça doit représenter peut-être des milliards d'euros, on ne sait pas. Si on met le prix de l'immobilier aujourd'hui, ça doit représenter des sommes qui astronomiques. Et ils ne pouvaient pas récupérer leurs biens. C'était fini, c'était spolié. Après la guerre, il faut revenir là, il a dû s'appeler Jeu à 13 parce que... Alors, Argussi ou argument des grands juristes, la fédération de 13, Jeu à 13, n'existait pas avant la guerre, donc on ne peut pas les indemniser. Je veux quand même ouvrir le débat un peu plus loin.
Allez-y, mais...
Et je pense qu'il y en a qu'il faut qu'ils ouvrent les yeux. Quand le RPR de Paris, pour Chirac, a été remboursé, alors que c'est l'UMP qui n'existait pas qui les a remboursés, il y a une cause à effet, il ne faut pas nous prendre peut-être pour des billes. Mmh. C'est parce que là, ça a marché. Pourquoi ça a marché? Pour la mairie de Paris, avec la PRUMP, ça n'a pas marché entre la fédération le rugby à 13 39 et la fédération française de jeu à 13. C'est la même histoire, il faudra que les juristes nous expliquent.
Ah, des fois, il y a deux poids, deux mesures, on dira.
Oui, des mesures. C'est-à-dire que les autres mesurés ont le système métrique et les autres ont le système anglais.
Mmh. Mais. Ces clubs qui ont été spoliés, on sait qu'il y en a certains qui ont essayé d'intenter des procès, de récupérer leurs biens, et jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont toujours rien récupéré.
Ils ont récupéré le nom. Et là, on le doit à plusieurs personnalités, dont comment il s'appelle, Jacques Soupelsa, qui est président de la fédération, qui s'est battu là-dessus. Et en 93, ils ont récupéré le nom de récupérer. Et aussi un avocat qui a été très, très pugnace, c'est maître Gilbert Collard, qui a été l'avocat qui a plaidé l'affaire, il faut le savoir. Hein.
D'accord.
Ça doit être dit. Hein.
Oui, bien sûr. Il exerçait son métier avant d'en faire un autre. Le rugby à 13 est spolié, la guerre se finit, tout commence à quand même repartir, puisqu'après, à partir de 48, le rugby à 13 a de nouveau le droit d'être pratiqué, d'avoir droit de cité. En France, comment tout cela se passe? Vous nous disiez aussi qu'il y avait des archives qui devaient être peut-être quelque part dans un coin.
Vers Taverny, par là-bas.
Qu'on pourrait peut-être un jour voir ressortir, ressurgir si la justice voulait bien y mettre son nez, on va dire, là-dedans.
Un procureur de la République en a la capacité, s'il veut.
Mm-hmm.
Il faut que la fédération le lui demande.
Bien sûr.
Ce n'est pas mon domaine.
Bien sûr. Mais peut-être qu'un jour, il y aura cette volonté. Quand les choses seront peut-être un peu apaisées, parce que c'est toujours une période qui est sensible, l'occupation, donc peut-être que ça peut remuer aussi des choses qui ne sont pas très jolies et des fonds de placard qui sont peut-être un peu plus hangs, on va dire.
Et je veux dire qu'à la différence des blessures, plus on s'éloigne, plus ça devient sensible.
Mm-hmm.
Les blessures s'éteignent avec le temps, et celles-là ne s'éteignent pas avec le temps.
Tout à fait, c'est très joliment dit. Donc, maintenant, on va aller un peu plus loin, on va passer après cette période de l'occupation. Et donc, comment reprend après le jeu à 13, puisqu'il n'a plus le droit de s'appeler rugby à 13, comment le jeu à 13 repart à partir de 48? Comment se restructure-t-il? Il y a eu facilement ou ça a été très très dur?
Il est reparti à partir de 44. Il y a eu le premier championnat, 45, les compétitions se sont mises. Beaucoup de clubs ne sont pas repartis, Brive, Narbonne, tout ça, mais beaucoup sont repartis. Il y avait du 13 à Rouen, à Paris, le Celtic, le Paris, où jouaient beaucoup de joueurs de rugby américains.
D'accord.
Ce qu'on appelait le shape.
Les fameux joueurs de rugby américains qui nous ont battus en finale des Jeux Olympiques et où ça s'est fini en bagarre générale.
Oui.
D'où le fait qu'il n'y ait plus de rugby.
Voilà.
Maintenant, on a le rugby à 7 qui est revenu.
Oui. Et ces gens-là, c'est reparti de plus belle. Il y avait à la tête de la fédération un monsieur extraordinaire, c'est Paul Barrière, c'était la grande. C'est ce qu'on appelle la classe. Paul Barrière a su négocier avec les pouvoirs publics et lui a pu faire repartir le 13 parce qu'en 1944, pour repartir, quand ils se sont présentés à Paris, il fallait qu'ils soient parrainés par trois fédérations. Et Paul Barrière, qui avait beaucoup d'amis dans les fédérations en tant que héros de la résistance des maquis de l'Aude, La fédération de cyclisme, tout ça, l'ont permis aux 13 de repartir, puisqu'ils étaient parrainés par d'autres fédérations.
D'accord.
Je crois que le handball aussi les avait aidés, je ne sais pas, il faudrait retrouver les archives.
Oui.
Mais Paul Barrière a pu négocier, et après, tout est reparti, l'équipe de France a battu les Britanniques, les Australiens, les Néo-Zélandais, l'Empire britannique, et en 1951... C'est l'apopée, l'apogée, j'allais dire l'apopée. L'apogée, les 13 de France partent dans l'indifférence générale, presque, en Australie, et trois mois plus tard, ils reviennent accueillis par 300 000 personnes à Marseille. C'était un triomphe. Comme la Coupe du Monde de 98, toute proportion gardée, mais c'est la même chose. Dans cette équipe, ils avaient battu.
Et pour un sport qui avait beaucoup moins de licenciés que le foot, en plus.
Oui, et à l'époque, ils sont revenus champions du monde. Ils avaient battu l'Australie. Et c'est là-bas que Pipette a fait, je crois, on a parlé tout à l'heure de comment ça s'appelle, de Mas Rousier, mais Pipette avait bien fait un match. On dit à un coup franc, il y a quoi qui avait le score 25 à 26, je ne sais pas. L'arbitre siffle, 65 mètres, bord de la touche, Pipette, boum, un drop, la France a gagné.
Sur le fil.
C'est record du monde. D'ailleurs, en Australie, Picobert, Pipette, qu'on l'appelle, le plus connu des Français aujourd'hui. Même aujourd'hui,
d'accord.
Il vaut mieux parler de Pipette que de parler de notre premier ministre, excusez-moi.
C'est une défaite qui devait être amère pour les Australiens de se faire battre chez eux par les Français, donc en finale. Donc,
oui, mais c'est des gens sportifs.
Les souvenirs douloureux restent plus souvent plus longtemps, on va dire.
Oui, mais ces gens-là sont respectueux.
Exactement.
Donc, ils respectent. Ils n'oublient jamais, parce qu'ils ont toujours la revanche en ligne de mire.
Et bien sûr.
Comme nous les Vosges jadis. Mais en fait, c'était une autre histoire.
c'est une toute autre histoire. Après cette épopée de 58, localement, et en plus, on va en parler, puisqu'on a appris son décès ce matin, il y a eu l'épopée aussi d'Albi, en 1977, qui devient champion de France. Pouvez-vous nous en parler, qui a été mené par Abel Castel, qui était l'entraîneur mythique de cette équipe et qui vient de nous quitter malheureusement ce week-end et à qui nous pensons très très fort.
Non, mais après, là, le tournée en Australie, le 13 est trouvé brillant. Il y avait un homme au tableau, comme on l'a dit tout à l'heure, il était interdit en milieu scolaire, donc il était condamné déjà à périclité. Rien que par ça. Ça s'appelle. Jadis, il y avait un écrivain latin. Il s'appelait Salluste. Et quand il parlait de l'Afrique du Nord, il disait « on humide Cupide ». Il y avait une espèce de numidie contre le Rivière 13, j'allais dire.
D'accord.
En comparant à Salluste, qui était le pendant de Cicéron. Enfin,
okay.
Chez nous, c'est pas trop carré non plus. Hein. Alors, le 13 repart, et Paul Barrière, a été à part le football qui avait la Coupe du Monde, le Rivière 13 a été le second sport au monde à créer une Coupe du monde qui a eu lieu en France en 1954 ou 1956, je ne sais pas. Et la France a été finaliste contre la Grande-Bretagne.
Et l'édition d'après,
ils l'ont remporté. Le monde évolue, il y a de l'argent, et en 1959, le 15 gagne pour la première fois le tournoi des 7 nations, mais 4 quinzistes de haut niveau passent à 13. Il y a Claude Mantoulan qui va à Rouen, il y a Jean Barthes qu'on ne présente plus, qui est toujours en vie, on peut le voir à la frontière de temps en temps, à 80, allez, 5 ans, il se porte bien. Le rugby conserve. Il y avait Aldo Caglio et Papillon Lacaze, le mythique Papillon Lacaze, très grand joueur de rugby. Comment dire, il avait beaucoup de choses dans les jambes, un peu moins dans la tête. Hein. Et alors ça évolue. Albi 13, à ce moment-là, a été champion de France au début des années 60, sous l'ère de Moriès, où jouaient des gens fabuleux comme Jean-Louis Bonnet, Jean Villeneuve, Bernard Fabre, Georges Fage, Gabriel Bertoumieux, Serge Tonus qui vient de nous quitter, qui était un joueur fabuleux, Honoré Conti, Vadon, Bescos, qu'on ne présente pas.
Qui vient de nous quitter aussi.
Qui vient de nous quitter aussi. C'était une équipe fabuleuse. Le temps passe.
C'était une dream team locale, on va dire.
Et après, vient un entraîneur pour entraîner l'équipe de France qui s'appelait Jep Lacoste.
D'accord.
Jep Lacoste, qui s'appelait André Lacoste, qui. À le croire, on a cru que c'était un plaisantin qui faisait rire. Un genre Coluche, parce qu'il donnait tous des noms assez soudains à des joueurs. Comment il s'appelle, Hervé Mazard, il avait surnommé Concorde, il avait toujours un surnom. Mais c'était tous un plaisantin, c'était juste le temps qu'il fallait. Et André Lacoste a mené l'équipe de France en finale, Jep Lacoste, en 1968, l'année célèbre. Et la France a joué la finale de la Coupe du Monde contre l'Australie, qu'elle a perdu 20 à 2, mais en termes de match, on n'en a pas beaucoup parlé, parce qu'il y avait tellement d'événements. À ce moment-là, le monde évolue, et Ferras a voulu la mort du 13. Et c'est pour ça qu'en 1960...
Ferras, pour nos auditeurs, Albert Ferras, qui était le président des 15istes, pour que nos auditeurs puissent nous suivre aussi.
On ne présente plus Ferras, on l'appelait Bébert Lagodasse.
Pour les plus jeunes,
l'homme qui avait
c'est des noms qui ne peuvent pas parler.
Avec Jomazo, une histoire de cheveux, disons. Quand on connaît la vraie histoire, c'est autre chose. Mais c'est les mystères de Paris, comme disait Eugène Sue.
C'est les mystères du sport.
Voilà. Et Albert Ferras voulait un mort à feu et il ne voulait pas que la Coupe du Monde 72 se fasse en France.
D'accord.
Et alors, il voulait acheter toute l'équipe de France de 13. Il était amateur, mais là, il n'était pas payé. Ah, là, bizarre, c'était Ferras.
Il était gourmand sur le coup.
Oui, il avait des sous. Puis il y a eu un protocole qui a été signé entre René Moriès et Ferras. C'est presque un marché de dupes. Mm-hmm. Sauf que ce protocole a eu un effet quand même positif. Les 13 ont dit qu'il faut faire de la formation. Villefranche a mis plein de classes parties. Les grands joueurs sont nés là, comme les Mazar, comme les Madol, comme les Moya, c'est tout un tas des. Comment il s'appelle ? Les Castilles, enfin, le père de celui qui joue au Dragon là.
D'accord.
Les frères Bonal qui sont passés à 13, c'était devenu. Le 13 était redevenu niveau. Puis en 77. Albi 13 a joué la finale, Albi, parce que la cause d'une inondation à Toulouse...
Contre Carcassonne,
qui a été fair play, qui a accepté que le match a joué à lui. Et c'est Abdel Castel qui a entraîné, qui est une famille de 13, et familièrement, les joueurs l'appelaient Tonton. Et en 74, quand même, Albi a gagné la Coupe de France aussi, sous la présidence de Francis Moriès.
D'accord. Donc c'était les grandes années fastes du rugby albigeois, et puis, si ma mémoire est bonne, on n'a plus de titre champion de France depuis. C'était le
Albi,
dernier.
Oui.
Pour Albi, c'est le dernier titre de champion de France en 77.
Je pense qu'il y en a une autre, je ne sais pas si c'est de seconde division, je ne sais pas trop.
Ah, en seconde division, je parle moi.
Oui, non,
en élite.
Oui. Là, je ne me rappelle pas trop là sur l'Albi. Mais je sais que beaucoup de joueurs après sont allés jouer à Villefranche-sur-Rouer avec les Bégou, les Roger Gary, tout ça.
Et il y en a qui sont passés aussi à 15, je crois, d'Albi après 77. Il y en a deux ou trois qui sont partis au 15.
C'est oui, il y a eu des histoires. Là, parce qu'après la guerre, il faut revenir, on a dit. Par les Anglais, un joueur qui avait touché un ballon à 13 ne pouvait plus jouer à 15. C'est pour ça que Jean Daugé, on revient après la guerre à jouer. On n'a plus pu jouer dans l'équipe de 15.
D'accord.
Mais il y avait des joueurs de talent qui ont été formés à 13, qui ont été des grands joueurs de 15. Je citerai les frères Labazoui à Lourdes, qui étaient formés à Carcassonne. Il y avait les frères Manterola, aussi, comme Diocet, qui a été international. Mais ils n'ont pas pu parce que... Et puis Manterola, c'est une famille de 13istes aujourd'hui aussi, on va dire.
Mais même actuellement, on le voit avec le Néo-Zélandais Sonny Bill Williams, qui était un ancien 13iste, qui est venu au 15, il y a des très très belles réussites encore avec des joueurs venant du 13.
Sonny Williams, je dirais, c'est presque le Jean Bart de l'époque.
D'accord.
Un joueur magique. Les Australiens et les Néo-Zélandais ne sont pas bêtes comme nous. 13-15, oui, mais nous d'abord, c'est-à-dire la Nouvelle-Zélande. Alors, si vous êtes champion du monde à 13, il va à 13, si vous êtes champion du monde à 15, il va à 15. Hein. Eux, ils savent mettre le chapeau, le mouchoir sur les affaires qui fâchent.
Bien sûr. Et donc... Après cette épopée 77, petit à petit, on va dire que le rugby à 13 va se mettre à un peu péricliter de sa petite mort.
Non, la mort, c'est en 81. Il faut revenir en 78. C'est la première fois que la France, la dernière fois que la France a battu l'Australie. Elle avait battu toutes les nations du monde. Il y avait les Castagnons, il y avait les Allard, il y avait une équipe fabuleuse. Et Ferras en avait marre. Il y a eu l'affaire Jean-Marc Bourret.
D'accord.
Qui était passé du 13 catalan, ou de Pia plutôt, à l'USAP. Ça fait la une de tout. On en a parlé, c'est des sommes qui, à l'époque, étaient le prix de 10 voitures, au moins, on va dire.
Oui, c'était non négligeable.
C'était pas pour acheter des cacahuètes, comme on dit. Ou boire un anisé au bar du coin. Et après, Ferras avait calculé. Et il s'est passé, la finale de 81, on ne comprendra jamais. Mais c'était un coup préparé d'avance. Et je pense que Ferras avait... C'est surtout du côté de Villeneuve, il a acheté les joueurs de Villeneuve. Quand il y a eu cette bagarre, c'est pas la bagarre, ils ne sont pas revenus sur le terrain surtout, pour qu'ils ne reviennent pas sur le terrain.
Parce qu'il y a eu une bagarre.
Oui, mais c'est surtout, la vraie chose, c'est que les joueurs ne sont pas revenus sur le terrain.
D'accord, donc il y a eu un forfait.
Oui, mais voulu, certainement manipulé, les gens payés. Et il se dit que Bob Denard, vous avez entendu parler de lui,
oui.
Il est dans le coup. Je connais un ami qui connaît la fille de Bob Denard, elle n'a jamais dit oui ni non. Si c'était vraiment non, il leur disait non.
Si même les mercenaires s'y mettaient, ça devenait compliqué.
Parce qu'on sait qu'un de Bolsonaro était capable de faire tomber un gouvernement, une république, lui.
Il en a fait tomber plus d'un.
Oui.
Donc, avant que lui-même tombe.
Oui, non, mais enfin, c'est fort possible.
Non, mais...
Il y en a un qui peut-être le savait, c'est René Verdier, le journaliste du Sud-Ouest, un des grands chanteurs du 13, avec les Jean Boudet. Parce qu'après la guerre, le 13, il y avait des journalistes qui aimaient le 13. Jean Boudet, Alès Angèle, qu'on ne présente pas, vous savez, le journaliste là, le grand.
Des grandes plumes.
Spinozzi. Mais Alès Angèle, puisqu'on parle de lui, sa fille, mademoiselle Spinozzi, c'était elle qui avait en charge la sécurité en tant que préfet de la Coupe du Monde de 98.
D'accord.
C'est la fille d'un 13iste quand même.
Eh oui, mais le 13 mène à tout, comme vous disiez.
À condition d'en sortir.
Exactement. Donc, je vois qu'il y a Will à la technique qui nous fait des signes. Et il nous a trouvé une petite pause musicale. On vous fait écouter cette petite pause musicale. Et on revient avec Aimé pour continuer à vous parler du rugby à 13.
On ne parle plus que de Jeux Olympiques. c'est merveilleux, c'est prodigieux. Et bien parmi tous ces sports athlétiques, le plus joli, c'est le rugby. Ah qu'ils sont beaux dans leurs petites culottes, tous ces sportmen, ces rugbymen. Mesdemoiselles, si ça vous asticote, n'hésitez pas à taper dans le tas. Ah, prenez pour mari fois le tour du stade et sous la pluie, sans parapluie, sa femme l'attend en gare dans sa valise. C'est excessif, mais très sportif. Il la présente de cette façon exquise, ma ménagère, mon manager. Ah, prenez pour mari un joueur de rugby et vous aurez pour charmer vos jours un champion. Chaque dimanche, il vous dit, ma jolie, passe-moi les reins aux gants de crin. Je pars pour faire un match en Australie, gonfle le ballon, lave mon caleçon. Quand il revient, il lui manque une oreille, il a le nez tout abîmé. Mais il a gagné la coupe en vermeil, y a cette photo dans les journaux. Prenez pour mari un joueur de rugby et vous aurez pour charmer vos jours un champion du sport et de l'amour. Oui, toujours vigoureux, même quand il sera vieux, vous le verrez se décarcasser pour marquer tout au moins un essai.
Et merci à Will pour cette petite pause musicale qui en plus de mise avec le sujet puisque c'était une chanson de Georgette Plana, le rugby en marche. Donc nous nous retrouvons de nouveau avec Aimé, notre docteur S rugby à 13 qui
spin doctor.
Exactement, pour être à la mode dans anglo-saxonne. Donc on en était à cette fameuse finale ubuesque de 1981 qui a fini en eau de boudin pour pas dire autre chose. Et qui, comme vous nous le disiez, a été sûrement trafiqué, acheté, bien préparé.
Oui, il y avait des on appelle ça les manipulateurs, les armées de l'ombre, comme on disait pendant la guerre. Et alors pour en revenir, on va revenir un peu en arrière. Dans les années 75, le rugby à 15 a connu de grands succès avec les Mazots, tout ça. Mais il ne faut pas oublier que les grands dirigeants de 15 de l'époque venaient souvent du 13, comme Yves Noé à Toulouse, Jean Daugé, Joseph Desclos. Tous ces grands dirigeants qu'on parle venaient du 13. Et c'est à l'époque où Bernard Laporte, l'ancien président de la FFR, a été comme mentor, il faut quand même le dire, un 13iste, Emmanuel Mercier de Gaillac. Mmh. Emmanuel Mercier, ironie de l'histoire, ça ne s'invente pas, vendait des vélos Mercier, du champagne Mercier, et a été un dirigeant d'Albi 13 et un des fondateurs, je crois, des carnavals d'Albi, je pense.
D'accord.
Je ne suis pas sûr, je ne suis pas là. Mais c'était un animateur des grandes festivités d'Albi.
En fait, c'est une partie prenante, on va
dire. Oui, oui.
Ok. Donc, après cette finale 81, que se passe-t-il pour le rugby à 13? C'est la lente descente aux enfers ou c'est brutal?
C'est assez brutal, les médias le mettent de côté, puis on parle que de violence, on invente n'importe quoi. Mais sur le plan international...
Moi, je suis de 85, comme année d'essence, ouais. J'avoue que c'est vrai, quand on était jeune, quand on nous parlait du rugby à 13, c'était la violence, c'est trop violent. Il y avait même, je me souviens, des parents dans les écoles qui ne voulaient pas que les enfants, le mercredi après-midi, aillent jouer au rugby à 13. Donc, d'où est venue, cette légende sur le rugby à 13, de la violence? Légende qui a fait beaucoup de mal.
Mais on le fait dans tous les domaines, ça. Quand on dit qu'on veut se débarrasser de son chien, on dit qu'il a la rage, c'est tout. Et dans la politique, c'est pareil. Si quelqu'un ne plaît pas, on l'a vite descendu. Il fallait descendre le 13, parce que le 13, il faut le redire, c'est un sport créé par des pratiquants et non pas par des VIP. Mm-hmm. Et je profite, je reviens sur le mot VIP, parce que le mot VIP, c'est un trésiste qui l'a inventé. Il s'appelait Christian Burgos, qui jouait à Carcassonne, 13, qui était pigiste au journal indépendant, il ne faut pas l'oublier. D'accord. Homme de théâtre et infirmier, qui a jamais voulu être médecin parce que c'était un homme libre, mm-hmm. qui je pense est le fils, le neveu d'André Burgos, que peu de gens savent. André Burgos, c'est un homme qui, à 12 ans, savait à peine lire et écrire, qui a fini à l'ENA, qui a créé la formation professionnelle en France. Peu de gens le savent.
D'accord. Un beau parcours.
Un beau parcours qu'on ne parle jamais, ça gêne.
Des histoires cachées.
Oui, il ne faut pas en parler. Qui était un ami très proche.
Lui-même parle. Et il en parle gaiement.
Et c'était un ami très proche de Chaban-Delmas. Et il ne faut pas oublier qu'après-guerre, Paul Barrière, on y vient dessus, était un ami proche de Chaban-Delmas, de la résistance. Mm-hmm. Et c'est, je pense que souvent Paul Barrière était même le bailleur de fonds, vous savez, en politique de Chaban. Hein.
Oui, surtout qu'à l'époque, il y avait beaucoup moins de chasse à la corruption et de volonté de moralisation de la politique. On va dire que les juges étaient beaucoup plus laxistes et oui. fermaient même un œil des fois par rapport au financement des partis, c'est sûr.
Comme disait un écrivain, Roger Peyrefitte, on va dire ça des amitiés particulières.
Tout à fait. La formule est heureuse, on dira. La formule est heureuse. Donc, petit à petit, le rugby à 13 perd de l'histoire, perd de la dynamique. Comment on arrive à ce qu'en 93, entre 81 et 93, que le rugby à 13 récupère son nom? Comment on arrive là? Comment, on va dire, cette petite renaissance de ce
fait? Parce que, comment est venue cette renaissance? C'est-à-dire quand même que chaque sopin ça, parce que dès le départ de René Moriès en 81, Jean-Paul Verdaguer, qui était un cadre supérieur de l'URSSAF, a pris la fédération en main.
D'accord.
Il a bien géré, vu les circonstances, il a fait un travail énorme. Puis sopin ça après la suite, puis Verdaguer est revenu, puis Verdaguer, ça, et puis il y a eu Gilbert Dautin, qui a été président de la fédération jusqu'en 89, tout ça. Et Gilbert Dautin, ça a été le premier à organiser des compétitions de 13 Russie-France.
D'accord.
Russie-France. Avec l'avance France, oui, oui. La Moldavie aussi avait joué à 13 contre la France.
Vous venez d'apprendre, je ne savais même pas que la Russie avait une équipe.
Il y a une équipe de 13 qui était de bon niveau.
Qui était de bon niveau.
Oui, oui.
Comme on dit dans le jargon, je dormirais moins bête ce soir.
Andy Heim, qui jouait à Real Monde, qui est professeur d'anglais à Allemagne, je crois, mm-hmm. J'ai joué là-bas, il y avait 20 000 personnes. Si on le dit, on ne veut pas nous croire, pourtant c'est vrai. En Russie.
Et oui.
Comme à Tripoli au Liban, on joue devant 20 000 personnes à 13.
Comme au Kenya. Le Kenya est un grand pays aussi de rugby à 13.
Oui, et on ne dit rien.
C'est vrai, alors que c'est vraiment un des sports nationaux
au
Kenya. Mm-hmm. Et c'est très méconnu, mais le Kenya est une très très grande équipe de rugby à 13.
Mais ils n'ont pas la dimension pour arriver au niveau supérieur, mais la Fédération internationale de 13, maintenant, va faire la Coupe du Monde, comment dirais-je, en deux parties. Il y aura l'animation émergente qui fera une Coupe du Monde, on ne mélangera pas tout, et puis l'animation majeure qui la joueront. Comme ça évitera des 163. Hein.
Oui, oui, c'est sûr. Et puis c'est compliqué après pour ces équipes.
Oui, et puis ça les décourage.
De progresser quand on prend une tourlée, pour appeler un chat, c'est vrai que pour y revenir après, c'est un peu plus dur. C'est un peu plus dur, on traîne un peu plus la patte, on va dire.
Mais le rugby à 13 est en train de prendre une expansion terrible à Montréal. Mm-hmm. Pas Montréal, à Toronto.
D'accord.
Qui joue en Ligue 1 comme Toulouse l'an dernier, devant près de 10 000 personnes à Toronto.
Et comme les Dragons catalans.
Oui. Il y a une crise, mais ils se redresseront, les Dragons. Je pense qu'ils ont trouvé un nouvel entraîneur, l'ancien entraîneur. Vous savez, un entraîneur, quand vous avez fait 5 ans, aujourd'hui, c'est...
C'est la fin d'un cycle, ils appellent
oui,
ça.
Oui.
On parle de cycle, maintenant.
Oui, oui, c'est ça, il n'y a pas plus, c'est fini.
Les entraîneurs, maintenant, c'est devenu, que ce soit au foot, au rugby, à 15, au rugby, à 13, c'est devenu comme les Kinex. C'est échangeable et pas réutilisable.
Les guirous, ça n'existe plus, hein.
Ah, il y en aura de moins en moins, je pense.
Oui, oui, je parle de sport confondu. Hein.
Oui, oui, il y a encore des gens comme Arsène Wenger, mais...
C'est le dernier Mohican.
Oui, exactement, exactement. Donc, on arrive en 93, il y a un forcing qui est fait pour récupérer ce nom. De 93, maintenant, à nos jours, comment est arrivé à ce qu'il y ait cette ligue, ou Ligue One, avec des clubs français et anglais qui se mettent en place? Comment est arrivé là? Il a fallu quand même que... Les 13 soient un peu moins conservateurs que leurs cousins du 15 pour s'ouvrir l'esprit et aller partager l'expérience avec nos voisins d'outre-Manche.
Le problème, c'est que Gilbert Dautin est mort trop prématurément. C'est un homme que j'ai connu qui était charmant. Mm-hmm. La vie l'a emporté. Vous savez, c'est un homme qui travaillait dur, c'est un homme du bâtiment, très cultivé. Mm-hmm. Et c'est Jean-Paul Ferré, qui est vice-président du Conseil général de l'Ariège, je crois, aujourd'hui.
D'accord.
Qui a été président de la Fédération pendant 10 ans, qui a pris la suite. Et il a pris langue, Jacques Fourou a pris langue avec lui.
Ok.
Parce que Jacques Fourou, en tournée avec les 15, a découvert le 13 avec l'équipe de France de 15 en Australie. Où même les 15istes ont été étonnés de voir la qualité de ce jeu.
D'accord.
Mais c'était en Australie.
Australie qui actuellement est le champion du monde en titre.
Oui.
Pour le rappeler à nos
auditeurs. Oui, l'Australie. Et alors à ce moment-là, ils ont créé France Rugby League. Et c'est à ce moment-là qu'on a créé Paris Saint-Germain Rugby League. Okay. Qui a joué deux saisons en Super League. Et qui a joué à Paris devant 20 000 personnes. Ça ne se dit plus aujourd'hui, ça. On est 15. Ça...
Alors, mais pour préciser pour nos auditeurs, on était en quelle année, là ?
95.
D'accord.
Mais de 93 à 95, on a préparé tout ça.
Ok.
Et de bons résultats. Le Paris Saint-Germain obtenait de très bons résultats. Et puis, bon, il y a eu des problèmes, certainement, de dénonciation du fisc, on ne sait pas trop l'histoire. Hein.
Et c'était le père...
C'est Charles Biétiri, le grand patron de la télé, qui supportait les 13.
Hein. Et c'était Canal Plus, comme pour les joueurs de foot, c'était Canal Plus qui était derrière. Non, c'était que M. Biétiri.
Biétiri, oui.
D'accord.
Et après, sentant le danger, les unions, les 15, comment dirais-je, ont fait remonter le Stade de Français par Max Guazzini. Qui est un ancien du 13, il a été international cadet à 13.
Et avec la fusion du CASG qui a complètement disparu maintenant.
Oui, la Générale, les assurances, les banques. Mais Max Guazzini vient du 13. Son oncle, c'était André Delay, qui était un représentant de...
Comme quoi, il y a des tristes partout.
Oui.
Il y a des tristes partout.
Représentant de commerce, comme on disait à l'époque, qui était un homme plein d'humour, qui avait toujours des formules à l'emporte-pièce... il avait des formules un peu graveleuses, je ne sais pas si on peut les dire.
Allez-y, mais...
Oh, quand il voyait une jolie femme, André Delay, il disait, en occitan, « Aquelo plamargada fariano pulido maso ». En occitan. Traduira celui qui voudra.
Exactement. Et vous me le traduirez pour moi, parce que là, j'ai pas tout suivi. Mon occitan est encore un peu...
après l'émission.
Mon occitan est encore un peu défaillant. J'ai des vieux restes quand j'étais petit, mais c'est
une formule d'André Delay qui était de Cavaillon ou d'Avignon par là-bas. Enfin, parce qu'on jouait beaucoup à 13 ans en Provence.
Et aussi dans les Pérou aussi.
Et oui, alors on va revenir aussi. En 51, on a eu un homme extraordinaire, c'est André Savoine, le bison du Vaucluse, qui a été maire de Rochefort-du-Gard.
D'accord.
Quand il a pris, comment dirais-je, ce village natal, 600 habitants, il y avait 600 habitants. 30 ans après, quand il a arrêté, il avait 12 000.
Ah, quand même, oui. Il a fait des petits, là.
Et ce qui est fabuleux, c'est que, politiquement, c'était deux opposés avec Georges Frêche. Mais en réalité, il y avait plus qu'une amitié de frères entre eux. Peut-être dans tous les sens du terme.
Au-delà des rivalités politiques, les hommes savaient s'apprécier.
Et quand Frêche a inauguré Georges Frêche, la salle André Savoine, il a dit, ceux-là, on ne peut que les admirer. Georges Frêche.
C'était le plus beau compliment qu'il pouvait
lui faire. Pour son travail de sportif et de chef d'entreprise, il avait créé une entreprise de 6000 personnes. André Savoine.
D'accord, c'était un grand temps.
Il y a ses frères, tout ça, qui jouent encore.
Et après, pendant la pause musicale, vous me disiez que, aussi, vous me parliez de l'éminent M. Ferras, qui en 92, vous me disiez, je ne sais plus, qu'il voulait tuer le rugby à 13.
Ou... Oui, non, en 72.
Non, en 72, il voulait que les jeunes commencent à jouer au rugby à 13 et après passer en 15 ans.
Oui, on joue à 13 jusqu'à 16 ans, Ferras avait dit.
Ouais.
Et après, on jouera à 15. Et il l'avait proposé à Fernand Soubi.
D'accord.
Qui a été président de Saint-Gaudens, un grand commercial dans le marché de la viande, on va dire, dans le négoce. Fernand Soubi peut le dire, qui est encore toujours en vie. Et Fernand Soubi avait quand même eu un aigle piège, quand même. C'était tellement gros.
Il était loin d'être bêta.
Oui.
Il a senti que c'était une mise sous cloche, on va dire.
Oui, c'était la fin annoncée. Et Ferras, il voulait ça. Parce que Ferras a joué à 13. À Marmande. Il dit que non, c'est son frère. Il n'a pas de frère. Ça peut pas être... Mais c'est une ferrasserie, on va dire.
C'est un peu gênant, oui, quand on est président du 15, président de la Fédération Française de 15, d'avoir joué au 13. C'est sûr que ça peut porter préjudice, surtout en connaissant les rivalités qu'il y a maintenant entre le 13 et le 15.
Oui, mais il va éviter en France, parce que quand on va dans les autres pays du monde, je parle principalement l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Angleterre, quand les Anglais, les Burgers, quand il faut jouer à 15, ils jouent à 13. Mais quand il y a la Coupe du Monde à 15... Ils vont jouer chez les 15, les Burgess. En Australie, en Nouvelle-Zélande, c'est pareil. Le drapeau chez eux passe avant l'identité sportive.
Oui, mais je pense qu'en France, c'est cette histoire de l'occupation où le 13 a été spolié, a été mis au banc, a été sali, qui a créé cette rivalité qui on peut dire, est indécrottable.
Mais c'était. Les 13istes, après la guerre, on ne pouvait pas leur toucher la main, ils étaient considérés comme des lépreux. On n'a jamais dit ça à Raoul Follereau, mais enfin, on aurait dû en parler.
Oui, mais celui qui aurait dit, peut-être qu'il serait quelques bricoles. Ça arrive, ça aussi, des fois. Et pas que d'aller troisième mi-temps. Donc, Aimé, maintenant, on va essayer d'arriver aux années 2000, puisque je vois Will qui nous dit qu'il nous reste que quelques minutes. On va essayer d'arriver aux années 2000 pour arriver à nos jours et avoir fait un peu le tour de cette histoire du rugby à 13. Donc, comment se passent les années 2000 pour le rugby à 13, que ce soit au niveau mondial ou au niveau français et local?
Au niveau mondial, il y a une expansion énorme. Ce jour, il y a près de 70 pays où on joue à 13. Même au Chili, on joue à 13. D'ailleurs, même en Argentine, puisqu'il y a une fédération, et le jour où la fédération de 13 est née en Argentine, les Pumas, 15, qui sont des gens très respectables, mm-hmm. on les a mis dans les fournations à 15 avec la Nouvelle-Zélande, l'Australie et l'Afrique du Sud. Ils ont vu venir le danger. Ça s'est passé là-bas, dans l'hémisphère sud. Et quand le 13, on a créé les Dragons catalans, qui sont nés de la fusion de Saint-Estève 13 catalans, qui sont montés en Super League, qui depuis 11 ans défendent la chose. Toulouse avait fait une expérience malheureuse dans les années 2010, mais maintenant, Toulouse semble se redresser. Comment va-t-il évoluer le rugby à 13? Est-ce qu'on va... À l'origine, la Super League, c'était prévu pour avoir 16 équipes, avec une équipe à Madrid, Milan, Moscou et Berlin. Est-ce qu'on finira pas là? Peut-être que c'est dans les cartons déjà. Hein. Parce qu'on joue à 13 en Allemagne. Hein.
Oui, ça serait un beau outil de promotion que cette Super League soit...
Et puis le 13 est quand même avant-gardiste. Et on ne le dit pas. La Super League... Et la NRL, la compétition trésiste de l'hémisphère sud, se joue de février à novembre. C'est-à-dire qu'au mois de février, on peut faire désigner le champion du monde en opposant les deux nations, les deux clubs qui ont gagné leur compétition. Et je pense que le football s'intéresse de très près à ça, et même le rugby à 15, où les saisons bientôt partiront de février à novembre, c'est ce qu'on appelle la mondialisation sportive, finalement. Mmh. Et les 13, une fois de plus, comme le cheval blanc de Brassens...
On le voit même de football, puisque la Coupe du Monde 2022 sera pour la première fois... En hiver, enfin, sous réserve qu'elle reste au Qatar, parce que avec les dernières affaires, c'est pas sûr que le Qatar continue à avoir
la Coupe du Monde.
La Coupe du Monde, mais actuellement, ils l'ont et elle se passera l'hiver. Donc c'est quelque chose qui est un mouvement, on va dire, de fond dans le sport.
Dans le sport, je pense qu'on va vers deux types de compétitions, les élites de février à novembre et les sports domestiques, les petits clubs, comme actuellement, biannuels. Mais je pense qu'avec la mondialisation, pour l'élite, on va faire l'annualisation. Et une fois de plus, les 13 seront devant. Parce qu'il faut dire que c'est les 13 qui ont créé les remplaçants en 1962, qui ont créé les cartons jaunes et l'expulsion temporaire. Mm-hmm. La tape pénalty, c'est deux Français qui l'ont créé, Fernand Soubi et Jo Guiraud, un ancien bagnard. C'est une vraie histoire, qui était devenu l'empereur du vin, l'égal de Jean Doumenc dans le commerce. Voilà. Ce que Doumenc, c'était le commercial de Noé là-bas, encore une histoire, on va pas y revenir aussi.
Ça fait partie de la légende locale.
C'est une légende locale. Vous connaissez la formule de Doumenc de Madame Thatcher?
Non, mais vous allez me la dire.
Je la comprends, cette femme. C'est une mal baisée. Doumenc.
D'accord. Ah oui, il y avait un langage assez crieux.
Oui.
Assez fleuri, on va dire.
Oui, mais c'est pas hypocrite, moi.
Exactement. Ça mérite d'être franc. Donc, pareil pour ces années 2000-2010 où nous sommes. Revenons aussi à Albi, parce qu'on est Radio Albigeste, beaucoup d'Albigeois nous écoutent. Comment analysez-vous un peu la situation qui est actuellement au RL 13, Rugby League 13? Comment analysez-vous cette saison? Quel est pour vous l'avenir de ce club? Est-ce qu'il est sur une pente ascendante ou...
Je pense qu'il est sur une pente ascendante, mais il faut que les clubs du Tarn, de 13, apprennent à travailler main dans la main.
À mutualiser, on va dire.
À se mutualiser et travailler à Villefranche de Rouen, qu'ils ont souvent travaillé. Et moi, je serais partisan, si j'étais à la Fédération, de recréer un club de 13 à Rodez, parce que j'ai eu arbitré à Rodez. Il y avait une équipe de 13, et de refaire partie d'une équipe de 13 à Rodez. Mais c'est mon point de vue. Quand je ne change pas, il faut suivre le 13 repart. Et il y a quand même une chose énormément positive depuis que Marc Palanque a pris la fédération. Avant, c'était bordélique, soyons honnêtes. Les calendriers, on les connaissait au dernier moment. Nous sommes au mois de juillet, ils sont presque finalisés. Il y a toujours quelque chose qui peut changer. Mais les grandes lignes sont là. Donc, avec Palanque, on peut travailler, on sait où on va. Voilà.
Il y a un cap.
Il y a un cap de données. C'est un chef d'entreprise. Marc Palanque, c'est, on va dire, un instituteur qui est venu chez l'entreprise, un enseignant qui a mal tourné et qui a réussi dans l'entreprise.
D'accord. Donc,
on ne peut pas rester enseignant à vie, on peut venir de l'entreprise, on peut aussi devenir enseignant. Les deux seraient complémentaires.
Tout à fait. Donc, Aimé, on va pas tarder à finir. Je vais vous laisser la parole pour la conclusion. Donc, comment vous envisagez le futur du rugby à 13 globalement? Pour vous, c'est une renaissance qui est en train de se faire ou c'est un sport qui va continuer à vivoter? Je pense connaître la réponse.
En France, il va peut-être continuer à voter, mais à l'échelle mondiale, il va exploser. Et la Coupe du Monde qui a lieu aux Antipodes au mois de novembre, octobre-novembre, à ce moment-là, je vous donnerai d'autres aperçus parce que je verrai. Mais je pense que ça va être un grand succès. Comme la Coupe du Monde.
J'ai même vu qu'ils avaient même fait un jeu vidéo de rugby à 13 maintenant. Mmh. C'est la première fois qu'ils en sortaient un.
Qu'il y avait comme maintenant... la Coupe du Monde de 2013, organisée en Angleterre, qui a été bien organisée. Un succès énorme. Mmh. Et je pense que nos amis britanniques, quelquefois, Je les aime pas trop, les roast-beef. Je vais quelquefois en aller le soir aujourd'hui.
C'est des cousins éloignés, quand même.
Oui, 1066.
Ils sont venus soit nous aider aussi.
1066, c'est nous qu'on leur a amené la soule là-bas.
Ça se dit. Ça, c'est... Après, il y a deux écoles, on va dire. Il y a deux écoles. Il y a ceux qui disent comme vous aimez, et d'autres qui disent une autre version. Mais après, on n'a pas les archives de l'époque, on va dire.
Je termine par un mot d'humour.
Oui.
On s'intéresse de plus à la civilisation des Incas, pourvu qu'on ne découvre pas que les Incas aient découvert le Rubia 13.
Merci Aimé, on va finir sur ce mot d'humour. Donc, je vous rappelle aux auditeurs qu'on était sur cette émission, il était une fois le Rubia 13 avec Aimé Mouret, comme je disais, notre spin doctor du rugby à 13, qui a écrit l'excellent Wouz du rugby à 13, que vous pouvez trouver dans toutes les bonnes librairies. Et je vous dis à très bientôt, je pense, avec Aimé, pour de nouvelles aventures
sur l'histoire
du sport en général, on dira.
Du sport ou de la vie sociétale, hein.
Il n'y a pas de souci.
Je m'intéresse à tout. J'ai été quand même pendant des années vice-président du SDET, du syndicat d'électrification du Tarn, donc
d'accord.
J'ai quand même des sujets variés.
Vous êtes touche à tout. Vous avez eu plusieurs vies, mais vous êtes comme les chats.
Je profite de cette émission pour dire un bonjour au docteur Pierre Bernard, qui était le président, qui est un homme extraordinaire.
Voilà, que je connais très bien.
Voilà.
Bon, mais je vous remercie, Aimé, j'espère à très bientôt.
Vous venez d'entendre l'émission Découverte, émission dont vous, auditeurs, pouvez être les auteurs, en adhérant à la radio bien sûr, mais plus simplement en venant nous rencontrer ou en nous contactant au 05 63 60 60 02 pour passer derrière le micro et faire connaître un sujet qui vous tient à cœur. Chaque auditeur est un animateur potentiel, ne l'oubliez pas. Nous vous souhaitons encore une bonne journée à l'écoute de nos programmes.